tout de suite. Retrouvez le créneau série sur Radio Bartas.
Cette semaine et jusqu'à fin décembre, on vous propose de découvrir ou de redécouvrir le faux procès du loup qui s'est tenu à Florac le 12 septembre dernier. Une série de 10 épisodes qui regroupe l'intégralité du procès. Dans le premier épisode, vous entendrez l'introduction par Marcel Lemonde, président du tribunal, et l'historique du tribunal de Florac par Monique Fraissinet, greffière à la retraite. Bonne écoute sur Radio Bartas.
Le tribunal. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever, s'il vous plaît.
Vous pouvez vous asseoir. Si vous le voulez bien, on va demander au photographe de se retirer. Merci. Alors, bonjour à tous. Avant de déclarer l'audience ouverte et d'appeler l'affaire qui sera jugée aujourd'hui en votre présence, peut-être n'est-il pas inutile d'apporter quelques précisions sur l'exercice auquel vous allez assister. Cet événement a été annoncé comme le faux procès du loup. En réalité, cet intitulé doit être clarifié, car il pourrait induire en erreur. En effet, en premier lieu, il est impossible de faire un vrai procès du loup. Nous ne jugeons plus aujourd'hui les animaux. Il faut d'ailleurs observer que c'est relativement récent, puisque à la fin du XVIIe siècle encore, un avocat du roi pouvait écrire « Si les bêtes ne blessent pas seulement, mais tuent ou mangent, la mort y échappe et les condamne-t-on à être pendus et étranglés pour faire perdre mémoire de l'énormité du fait ». Et un siècle plus tard, donc au moment de la Révolution, un perroquet et son propriétaire se sont retrouvés devant le tribunal révolutionnaire car l'animal avait la fâcheuse habitude de crier « Vive le roi !» À l'issue du procès, le perroquet fut remis à une bonne citoyenne chargée de lui apprendre à crier « Vive la République !» tandis que son maître était plus simplement guillotiné. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de procéder différemment. Et plutôt que de parler de faux procès, peut-être serait-il plus juste de parler de vrai faux procès. Sans doute le procès sera-t-il faux en certains de ses aspects, car nous allons prendre quelques libertés avec la réalité judiciaire. Nous ne pouvions pas faire autrement pour les raisons qui viennent d'être expliquées. Alors, nous avons décidé, par exemple, d'écarter toute discussion procédurale pour nous concentrer sur les questions de fond, ce que les juristes, habituellement, ne font qu'avec beaucoup de réticence, car ils considèrent, à juste titre, que la forme est la sœur jumelle de la liberté. Nous avons pris quelques distances avec le droit en éliminant certaines contraintes techniques et on pourrait dire que nous nous sommes donné comme objectif de respecter l'esprit de la procédure plutôt que la lettre, les principes tels qu'ils sont fixés à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, dont je vais extraire quelques citations pour vous expliquer comment nous abordons la question. L'article préliminaire dispose notamment que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement, c'est-à-dire que le juge ne doit pas se prendre pour un procureur et le procureur ne doit pas se prendre pour un juge. L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes tout au long de la procédure pénale. Et toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. Voilà quelles sont quelques-unes des règles de base que nous allons nous efforcer d'appliquer pour que vous compreniez bien comment fonctionne la justice, ce qu'est un procès digne de ce nom. Un procès suppose l'incertitude sur le résultat final, d'abord. On ne doit pas connaître à l'avance le résultat, sinon ce n'est plus un procès, c'est une simple condamnation. Et le procès suppose aussi la contradiction, c'est-à-dire il faut impérativement que nous ayons des versions contradictoires pour pouvoir juger. Si tout le monde dit la même chose, c'est la confusion. Ce n'est plus la contradiction, ce n'est plus le débat contradictoire qui caractérise un véritable procès. Pour qu'on ait affaire à un véritable procès, il faut des parties qui ont chacune leur position, leurs idées, leurs opinions, et qui puissent l'exprimer librement. Alors pour cela, nous aurons des parties civiles qui seront représentées par un avocat, qui seront les plaignants, en quelque sorte, ceux qui viennent réclamer justice en s'estimant victimes. Et puis nous aurons un avocat général qui représentera l'intérêt de la société, qui rappellera quelles sont les dispositions de la loi, qui fera les observations qu'il croit convenables au bien de la justice, selon les termes du Code de procédure pénale. Et puis nous aurons des avocats de la défense, dont on ne peut pas se passer pour qu'on ait affaire à une véritable justice. Une justice sans défense n'est plus la justice. Donc, toutes ces règles de base seront respectées, et en ce sens-là, on peut dire que ce procès sera un vrai procès. Nous, au risque d'être un peu présomptueux, nous pourrions dire que nous allons nous efforcer d'appliquer la procédure pénale, non pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle devrait être. Ce qui nous permettra de faire preuve d'imagination, contrairement à ce que prévoit la loi française. Pourquoi ? Parce qu'il nous a paru plus important de privilégier la qualité du débat de fond et de permettre aux uns et aux autres de réagir à ce qui aurait pu être dit par leurs prédécesseurs, plutôt que de vouloir absolument maintenir la fiction d'une vérité absolue que devraient respecter les témoins sans être influencés par les dépositions des autres. Bien sûr, les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, mais en cette matière, la vérité est quelque peu relative, et il nous a paru plus important, encore une fois, de privilégier la qualité du débat. Enfin, dernier écart par rapport aux usages judiciaires, on pourra s'étonner de la tenue du président et de l'avocat général, les robes rouges étant plus habituelles dans les cours d'assises que devant les tribunaux d'instance. Mais cette audience étant intégralement filmée, il nous a semblé important de privilégier l'esthétique. Et également, puisqu'il s'agissait de rendre hommage à ce tribunal de Florac qui vient de rendre l'âme, il nous a paru important de respecter une certaine solennité qui ne doit pas être perdue de vue quand on pense au rappel salutaire de Jean de La Fontaine, expert non seulement en cohabitation entre loup et agneau, mais également en questions judiciaires. La Fontaine qui disait dans l'âne portant des reliques, « D'un magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salue. » Ainsi, le procès ne sera pas totalement conforme à la réalité judiciaire. Mais il n'en sera pas moins vrai en divers autres aspects. D'abord, et il est important de le souligner, nous ne sommes pas au théâtre et il serait malvenu d'applaudir ou de siffler les interventions des uns et des autres. Il ne s'agit pas d'une plaisanterie, il ne s'agit pas d'une farce. Le sujet est sérieux, il est même pour certains dramatique, et en conséquence, il ne s'agit pas de prendre l'affaire à la rigolade. Ce qui ne devrait pas nous interdire de glisser quelques pointes d'humour dans notre discussion, comme nous y invite la chanson « Tu peux sourire, charmante Elvire ». Eh bien, comme dans toute enceinte de justice digne de ce nom, notre démarche va précisément consister à inverser la proposition et à faire en sorte que le loup ne mange pas l'agneau sans autre forme de procès, tout en respectant les droits de la défense, qui est évidemment la condition d'une vraie justice. Dans une autre fable moins connue, « Le loup et les bergers », La Fontaine met dans la gueule du loup ses propos. « Je suis haï, dit-il. Et de qui ? De chacun. Le loup est l'ennemi commun. Chien, chasseur, villageois s'assemblent pour sa perte. » Et notre auteur de conclure, « Berger, berger, le loup n'a tort que quand il n'est pas le plus fort. » C'est de tout cela que nous allons débattre aujourd'hui. Le loup est-il vraiment responsable des maux dont souffrent les éleveurs ? Est-il au contraire un bouc émissaire facile, victime de toutes nos peurs ancestrales ? Permettre à chacun de comprendre les problèmes de l'autre, entendre ses préoccupations, pour que les mots ne cèdent pas la place à la violence, comme on l'a vu récemment dans le parc de la Vanoise, où le président et le directeur du parc ont été séquestrés pendant quelques heures. Telle est notre ambition. Pour cela, le rituel judiciaire est un outil précieux, car on n'a encore rien trouvé de mieux pour ordonner correctement la parole que ce rituel. Que chacun soit à sa place et que chaque chose vienne en son temps. Voilà l'ordre du rituel judiciaire, écrivait Antoine Garapon, qui ajoutait « Si l'État met à la disposition des citoyens les palais de justice pour s'exprimer, c'est précisément parce qu'ils redoutent une expression sauvage de leur mécontentement. » Donc, ici, tout se fera dans l'ordre. Aucun débordement ne sera toléré. Et si cet impératif venait à être perdu de vue, je n'hésiterai évidemment pas à faire évacuer la salle. Mais je suis sûr que nous ne serons pas obligés d'en arriver là. Voilà, ces remarques préliminaires étant faites, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Mais auparavant, quelques mots doivent être dits sur ce palais de justice qui nous accueille aujourd'hui et qui est en quelque sorte en soins palliatifs. Madame la greffière, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. La loi du 18 mars 1800 crée les arrondissements et un tribunal de première instance est établi dans chaque arrondissement de Lozère, à Florac, Mende et Marvejols. Le tribunal de première instance de Florac est alors constitué d'un parquet avec un procureur de la République, d'un cabinet d'instruction, d'un service civil et d'un service correctionnel. Ce tribunal est aussi la juridiction d'appel pour les jugements rendus par les juges de paix. Lors des audiences correctionnelles, les prisonniers détenus dans la prison située dans le château, qui est actuellement le siège du parc national des Cévennes, étaient amenés menottés à l'audience par cette porte que nous avons ici sur le côté. La construction de ce tribunal débutait en 1829 pour s'achever en 1831. Et des travaux importants sont effectués en 1879. Les colonnes que nous avons devant le palais de justice sont remplacées par des piliers massifs et le fronton n'est pas orné. C'est au début du XXe siècle que l'arrière-grand-père de maître François Roux était le président de ce tribunal. Le tribunal de première instance de Florac fonctionne jusqu'en 1926, date à laquelle il est supprimé en tant que tribunal d'arrondissement. Et de ce fait, s'ensuit le départ non seulement des magistrats, mais aussi l'exode des avocats, avoués, greffiers et huissiers. À cette même date, en 1926, les justices de paix des cantons sont regroupées au tribunal de Florac. Il devient alors tribunal de justice de paix jusqu'à la prochaine grande réforme de la carte judiciaire en 1958. Depuis 1958, l'architecture générale de l'institution judiciaire du premier degré est pratiquement restée inchangée. Les tribunaux d'instance et de police sont créés et demeurent encore à ce jour. Le calendrier annuel des audiences est établi annuellement, ce qui est toujours le cas, et le jour choisi correspond très souvent avec le jour du marché local. Ainsi, le justiciable et les citoyens se déplaçaient utilement pour venir au marché, pour régler leurs affaires, comparaître devant le tribunal ou assister aux audiences publiques. En se référant au registre d'audience et à la nature des affaires portées devant les tribunaux, on s'aperçoit que les actes de justice constituent une rubrique particulièrement dense pour étudier la vie quotidienne, économique et sociale d'un territoire. Depuis 1958 jusqu'à la fermeture en 2009, le tribunal était composé d'un juge et d'un greffier. Et le greffe de Florac a été fonctionnarisé en 1968. La fermeture programmée de 178 tribunaux d'instance fin 2009 a été difficile à vivre, tant pour les acteurs judiciaires que par les élus et la population. La fermeture, toujours regrettée d'un service public, il y a 178 tribunaux d'instance qui ont été fermés, comme je vous le disais, mais seulement 7 ont été créés, entraîne de nombreuses difficultés en milieu rural, notamment compte tenu de l'éloignement géographique. Et le manque de relations directes avec un service de justice ajoute une difficulté supplémentaire. Actuellement, le seul tribunal d'instance de la Lozère est à Mende. J'ai pris ici mes fonctions de greffier en 1970 et j'y ai exercé de nombreuses années. Il y a 6 ans, presque jour pour jour, se tenait dans cette même salle la dernière audience avant la fermeture définitive fin 2009. Il va sans dire que c'est avec un immense plaisir que j'ai accepté, à la demande de l'association Les Arts au Soleil, de revêtir aujourd'hui cette robe de greffier pour cette ultime faux procès du loup. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, Madame la greffière, pour cet intéressant rappel.
Vous venez d'écouter le premier épisode de la série « Le faux procès du loup ». La semaine prochaine, vous pourrez entendre la présentation des avocats, le rappel des faits et le premier témoin, Bernard Grelier, berger et président du groupement pastoral Gare Lozère. Restez à l'écoute sur Radio Bartas.